Chapitre 8. La quête de l'abbé Roubiot. Les gens de Fontenay s'entretenaient de la vente qui devait avoir lieu à l'Épine le dimanche 22 juillet. Une affiche collée sur les murs de la mairie annonçait cette vente volontaire et énumérait les objets qui seraient adjugés à la criée. Depuis qu'elle était là, Gilbert passait au large. Il ne se montrait plus dans le bourg à cause de cette feuille de papier rouge. Il faisait la moisson dans une ferme éloignée et ne revenait guère que le samedi dans sa maison du Pas du Loup, évitant de rencontrer ses amis d'autrefois, prenant les sentiers au lieu des chemins, honteux et irrité d'avoir pour enfant des faillis. L'abbé Roubiot, appelé par sa mère malade, avait quitté sa paroisse avant de commencer la quête qu'il avait promis de faire, et, revenu à Fontenay, il remettait de jour en jour cette corvée qui l'inquiétait. Le 19 juillet, quand le soleil se leva, l'atmosphère était chaude et toute chargée encore de la poussière de la veille. Depuis 6 semaines, la terre souffrait de sécheresse. Les feuilles pendaient, molles, le long des branches. Le brillant de l'herbe avait passé. Les épis laissaient tomber le grain et les hommes suffoquaient en se courbant sur les blés. Le travail de la moisson était donc plus rude que de coutume pour les coupeurs d'avoine et de froment, et, selon toute apparence, il donnerait peu de profit. C'est à quoi songeait l'abbé Roubiot vers midi, en descendant de Fontenay pour gagner le Pas du Loup. Sur la route, sonnante comme une roche creuse, il marchait lentement et la tête penchée, contrairement à son usage. Il la releva en passant devant l'avenue du château et aperçut Michel de Meximieux appuyé sur la barrière blanche. Le jeune homme fit un signe de la main. « Venez me voir !» Il avait l'air très calme. Rien ne trahissait qu'il venait de souffrir d'une crise, si ce n'est la pâleur de ses narines encore dilatées et le frémissement de ses doigts sur le bois qu'il tenait serré. Toute l'énergie de sa race revivait en lui, transformée, silencieuse, souveraine dans le domaine des douleurs. À l'abbé Roubiot qui s'informait, « Comment allez-vous ? » Il répondit, « Mal. » Mais cela fut dit sur un ton de suprême indifférence. Et il ajouta, « J'attends le passage du toucheur pour lui parler d'un envoi de bœufs. Agriculteur jusqu'au bout, comme vous voyez. » « Et vous, je devine ce que vous allez faire. »« Hélas ! Par où commencez-vous ? » ?»« Par le hameau du Pas de Loup. 5 maisons, pas une chrétienne. Je me dépêche parce que c'est l'heure de la sieste et que les journaliers sont chez eux ou peuvent y être. » Michel salua en souriant. « Allons, bonne chance aux missionnaires. Monsieur l'abbé, venez me raconter ce soir votre premier jour de quête. » « Moi, j'ai confiance. »« Vraiment ? » ?»« Voyez-vous, monsieur l'abbé, nous avons dans le corps 8 litres de sang. Eh bien, dans le plus pauvre sang de France, il y a toujours une goutte qui croît. » Ils se serrèrent la main et l'abbé Roubiot descendit, hâtant le pas pour prendre le sentier tout voisin qui dévalait entre les prés. La première maison où il entra fut celle de Gilbert Cloquet. Le journalier, la veille, en coupant le blé, avait été frappé d'insolation. Il était revenu au hameau. Il était faible encore et couché sur son lit défait. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, à l'entrée subite de la lumière et de l'air, il se redressa et sauta sur la terre battue, honteux, boutonnant en hâte le col de sa chemise et chaussant ses sabots alignés sous le bois du lit. « Ma parole, c'est notre curé !» dit-il. « Excusez, je ne m'attendais pas à votre visite, je ne pensais pas à vous. » « Je regrette bien de vous déranger, Gilbert, mais j'ai une raison pour venir. » « Ça doit être, monsieur le curé. J'avais jamais vu chez moi celui qui vous a précédé avant le jour où il est venu prendre le corps de ma pauvre femme pour le porter en terre. Mais asseyez-vous donc. » « Merci. » « Un verre de vin ? Vous avez soif peut-être, c'est de bon cœur, mais moi, je ne peux pas boire aujourd'hui. Non, je viens pour une chose qui est très sérieuse. Je vais voir toute la paroisse et je commence par le Pas du Loup. Gilbert Cloquet, vous savez que l'État ne nous paye plus ?
J'ai vu cela sur les journaux, en effet.
Alors je viens vous demander, à vous et à tous les hommes de la paroisse, voulez-vous donner quelque chose pour faire vivre les prêtres, moi et les autres, ou bien voulez-vous abandonner la religion ? Vous êtes libre, Gilbert. Répondez-moi selon votre conscience.
L'abbé, debout, très ému et tremblant malgré lui, avait récité la formule qu'il avait préparée et qu'il allait dire, la même, à chaque chef de famille. Il lui semblait qu'il avait devant lui toute la campagne méditative et fermée.
Qu'allait-elle dire ?
Il priait. Le village, accablé par la chaleur, se taisait. Une rainette chantait, cachée sous le baril de vin. Gilbert, en chemise et en pantalon, la tête basse, pesait les mots qu'on venait de lui dire, comme s'il s'agissait d'une botte d'écorce dont il devait connaître le poids. Il avait son air des grands jours de dispute, sa figure de juge, la mâchoire pendante, les paupières demi-closes et les sourcils rapprochés. Quel souvenir traversait son esprit ? Quelles raisons le décidèrent ? Tout demeura mystérieux. Il ne dit qu'une chose, la plus petite sans doute de celle qu'il avait pensée. Il se redressa et son regard tout bleu demeura grave.
« Monsieur le curé, je n'en use guère. Mais pour ne pas en avoir du tout, ça ne me va pas. Je veux être enterré dans la terre bénite comme mes défuntes. »
L'abbé, qui crut dire merci, ne s'aperçut pas, tant il était troublé, qu'il continuait seulement tout haut, la prière commençait tout bas.
« Santa Maria Mater Dei !»
Le journalier n'y prit pas garde non plus. Il s'était retourné. Il fouillait sous son traversin et en retirait un vieux porte-monnaie à monture de cuivre. Puis, mettant son offrande dans la main de l'abbé Rubio,
« Je ne suis plus riche, je ne peux pas donner grand-chose. Faut pas m'en vouloir. Ma pauvre Marie va être vendue dimanche. »
L'abbé, très pâle, prit entre ses doigts la pièce de 2 francs et, l'élevant, il traça dans l'air le signe de la croix.
« Benedicat vos, » dit-il. « Merci, Gilbert. Dieu ne vous abandonnera pas. »«
J'en ai besoin, » répondit l'homme.
Peut-être en aurait-il dit plus long. Mais l'abbé se retira et, traversant le chemin forestier, entra chez Ravoux, dans la salle basse où 5 enfants, le père et la mère, achevaient de dîner. Le saladier, plein de débris de lait caillé et de pain, était encore entre eux sur la table. Ravoux se leva, fronça les sourcils, et, comme Gilbert, regarda fixement le prêtre. Mais il y avait entre eux toutes les lectures que l'ouvrier avait faites. L'abbé, timidement, commença à répéter sa demande.
« Non, monsieur, interrompit Ravoux, c'est inutile. « Vous savez bien que je ne suis pas de votre parti. »«
Mais je ne suis d'aucun, pas plus que Dieu, » dit l'abbé.
« Suffit, je dis ce que je dis, je ne donne pas pour la calotte. »
L'abbé Rubio leva la main pour la seconde fois au-dessus des enfants stupéfaits.
« Benedicat vos !»
Il sortit en saluant. Ravoux le suivit. Il était agité, peut-être même touché tout au fond. Le poil noir et frisé remuait sur ses joues.
« Quand vous n'aurez plus de pain chez vous, » dit l'ouvrier au prêtre qui s'éloignait, « je ne vous en refuserai pas. Ce que je refuse, c'est la cause, c'est pas vous. »
L'abbé fit un signe de tête sans se retourner, tandis que Ravoux refoulait dans la chambre les enfants et la mère, dont les têtes s'étageaient au soleil entre les montants de la porte.
« Drôle de calotin que le curé d'ici, » dit-il en riant. « Il y croit à sa religion. »
L'abbé continuait sa quête. Il entra dans la maison de la voisine de Cloquet et la grosse mère Justamont demanda.
« Je peux-t'y vous donner sans le dire à mon homme ? Il n'est pas là. »
« Non, il faudra le lui dire, au contraire, pour qu'il ait sa part dans le mérite. »
« Alors, je ne peux pas. »
« Adieu, mère Justamont. »
L'abbé Rubio tourna sur ses talons, mais il n'avait pas fait 4 pas vers la maison du père 19 que la bonne femme, la poitrine haletante, secouée en mesure, courut après lui.
« Tenez tout de même, monsieur le curé, prenez ça !»
Elle donnait 10 sous. Elle avait 6 enfants. Le père 19, l'ancien zouave, atteint d'hémiplégie, la main droite crispée, le cou tordu, l'œil inerte et mouillé, était assis dans un fauteuil de paille devant sa fenêtre.
« Ce serait plutôt à moi de vous quêter. Après tout, je n'y vais jamais à l'église. »
Puis, se rencognant sur l'oreiller qui lui soutenait la tête,
« Prenez donc tout de même les sous qui sont sur la cheminée, c'est tout ce que j'ai. Et puis, foutez-moi la paix, à l'honneur !»
L'abbé en prit 2 et laissa le reste. La femme de juste lappe, presque au bord des bois, la petite femme bien attachée, décidée, alerte, presque jolie encore, qu'on voyait aller en journée aussi souvent que son mari, ayant vu le hameau en émoi, connaissait déjà la raison de la visite du curé. Elle n'attendit pas la demande, mais prenant l'abbé à part, à l'abri de l'angle de la maison,
« Dites, monsieur le curé, est-ce que Ravoux a donné ?»«
Non. »
« Et Gilbert ?»«
J'ai commencé par lui et il a donné. » »«
Alors, je donnerai aussi. L'ape est toujours du parti de Cloquet dans les disputes. »
Quand il sortit de la forêt, l'abbé se parlait tout haut à lui-même.
« Ce n'est pas trop mal, je n'aurais pas cru. Ce pas de loup serait-il le meilleur hameau de la paroisse ? Comment cela se fait-il ? En tout cas, me voilà lancé. À présent, en plein champ, Rubio !»
Il se jeta hors du chemin, coupa le pré, longea en montant la ferme de l'épine, où la fille de Cloquet refusa dédaigneusement le quêteur, et, traversant la route de Fontenay, il entra dans l'héritage qui était le grenier à blé d'une grande ferme de la paroisse. À cause des pentes, de la forme en dos d'âne qui était celle du champ, il était difficile de faire manœuvrer la moissonneuse mécanique. On moissonnait à la faux. Les épis, pressés les uns contre les autres, formaient à 3 pieds de terre une fourrure plus épaisse, plus sensible et mobile que celle d'une bête. Nappe de grains mouvante d'où s'échappe et s'écoule déjà l'odeur du pain, car, au ras des planches, tout le long des tiges, la chaleur s'est amassée, elle a roussi la paille et séché la farine. Et maintenant, dans la fournaise, les hommes sont entrés. Ils moissonnent. L'abbé cherche ses ouailles. 3 hommes sont là, courbés. Les nuques ardentes, les bras, la faux qu'ils tiennent, décrivent un demi-cercle. Les torses suivent le mouvement avec une moindre amplitude. Les pieds avancent après 2 coups de lame et 2 balancements du corps. On les voit de dos, les moissonneurs. Celui qui a commencé le premier est déjà à mi-coteau. Dans la seconde planche, à 50 mètres en arrière, son frère le suit et presque au bas du champ, tout près de l'abbé, le domestique, un mauvais bicard de 16 ans, ébrèche sa faux sur les cailloux. En voyant l'abbé passer l'échalier, l'enfant rit, lève les épaules et se remet à faucher. On a parlé souvent des curés devant lui, et pas en bien. Il a les pommettes rouges, mais quelle taille chétive, quelle hérédité morbide dans le teint blafard du cou, dans les gencives déjà molles et bossuées de la bouche entr'ouverte, quelle lueur de passion bestiale dans les prunelles, quelle mort mal habillée de jeunesse et qui se trahit sous le déguisement. « Petit, demande l'abbé, je te rencontre pour la première fois. D'où es-tu ? »
« De l'Allier. »
« As-tu fait ta première communion ? »
« Non, pour sûr. »
Le rictus des morts était sur sa pauvre bouche, bleu de fatigue et d'épuisement sans ressources. L'enfant avait posé sa faux debout sur le chaume. Il était tout petit à côté d'elle.
« Es-tu baptisé seulement ?»«
Je crois que oui, parce que j'ai été, dans le temps, au baptême de mes sœurs. »
L'abbé récita sa formule pour expliquer la visite, et le rire diminua.
« Si je te quête, ce n'est pas pour l'argent, mon petit. C'est surtout pour ta petite âme inconnue.
Je suis né comme toi dans les fermes. J'ai travaillé comme toi. Mais j'ai quitté ce que j'aimais, ma mère, mes parents et mes voisins, pour vous mieux aimer tous. Dis-moi que tu ne sais rien du bon Dieu, mais que tu ne veux pas être de ses ennemis. » Le soleil, ayant tari depuis longtemps les réserves d'eau de la terre, buvait à présent la sève des herbes et des bois, et c'était sans doute ce qui formait ces nuages blancs, gros comme le poing, et qui planaient très haut, comme des oiseaux qui ont leur nid dans l'herbe et qui volent au-dessus. L'abbé avait sa soutane traversée par la sueur et collée au corps. Les hommes qui étaient en avant, dans les premières tranchées ouvertes, tout en fauchant, tournaient la tête pour voir ce que faisait le domestique. L'enfant leva ses yeux, qui rencontrèrent ceux de l'abbé, et je ne sais quelle bonté descendit jusqu'à son âme en friche. Il passa le coude sur son front mouillé, tapa sur la poche de son pantalon, et dit en se moquant, mais avec de la jeunesse vraie dans le regard et du cœur dans la voix, « J'ai rien là, mais je veux bien pour vous faire plaisir. Voulez-vous, j'irai dimanche vous porter mes sous. » Par-dessus les jonchées de froment abattus, par les sentiers entre elles, l'abbé s'avança en montant vers l'homme qui était le second, et derrière lui, il entendait la faux crissante du petit qui s'était remise à l'œuvre. Quand il fut rendu près du faucheur de blé, l'abbé salua de la main et il allait parler, quand l'homme dit gravement, ayant deviné ou entendu le dialogue du bas du champ, « Oui, prenez mon nom. Je suis catholique et vous le savez bien. Je fais dire une messe tous les ans, le jour où est mort mon père. Et votre frère ?»« Je ne sais pas. Allez lui demander. » L'abbé monta encore, en inclinant à gauche vers le bord de la haie. Le blé soufflait son odeur de pain. L'abbé considéra le rude homme, qui était l'aîné et le chef véritable de la ferme, colosse qui tranchait d'un coup de lame aussi large d'épi qu'une grande roue de charrette. Il lui parla, étant encore un peu en arrière, et l'homme, sans se relever, sans se détourner, dit sèchement « Non, vous ne voulez pas ?»« Non !» L'abbé demeura en arrière, son chapeau à la main, et il suivit lentement l'homme qui lançait la faux. « Au nom de ceux qui ont fauché ici avant vous, dit-il, et qui sont morts !» Les deux hommes marchaient sur le même chaume. Ils entendaient chacun le piétinement de l'autre. « Au nom de vos enfants qui n'auront pas, sans Dieu, toute la joie de leur vie !» Tous deux, ils frôlaient de la poitrine les mêmes épis qui allaient tomber. « Au nom de votre âme abandonnée et que je voudrais sauver !» Le paysan ne répondait plus. Il y avait de la colère dans le bruit de sa lame tranchant les épis. D'ailleurs, le dos du champ, le haut de la vague rousse était tout voisin, et l'homme allait descendre l'autre versant du blé. Quand l'abbé vit cela, il laissa le faucheur et alla vers d'autres champs et d'autres cœurs. À 8 heures du soir, il n'avait pas paru au château de Fontenaye. Il ne vint pas non plus le vendredi. Ce fut seulement le samedi soir qu'on vit descendre, par l'avenue de Hêtre, un abbé Roubiot qui ne ressemblait plus entièrement à l'ancien. Il semblait avoir encore maigri. Sa soutane était blanche de poussière. Il marchait en boitant et appuyé sur un bâton. Mais la petite tête noiraude, inattentive à la route, épanouie dans le rêve, écoutait sûrement le cantique de la vie nouvelle. Le prêtre venait dans le crépuscule d'été, qui est aussi clair que le jour et plus doux. « Eh bien, et la quête ? » cria Michel en traversant la cour. « Est-elle finie ?» Ils se rencontrèrent sous le dernier hêtre de la grande avenue. « Je n'en puis plus, dit l'abbé, mais je suis dans l'espérance. Vous aviez raison. Savez-vous combien de familles m'ont refusé, monsieur Michel ? 6. Toutes les autres ont donné. » C'est une merveille, en effet. Et une autre, c'est que je me suis fait connaître, c'est que je suis mieux leur prêtre, c'est que nous avons moins peur les uns des autres, eux et moi. Ah, monsieur Michel, si vous les aviez entendus, quelle forme différente de l'acte de foi! Quelle naïveté! Quelle pauvreté, souvent!
Mais quel cœur mystérieux se révèle en tout cela ?
Les preuves, il les apportait. C'étaient les réponses recueillies dans les champs et dans les fermes. Il les vivait encore. Il en était ému, troublé, attristé, amusé. Il les racontait en y mettant le geste et l'accent. Il disait celles des habitants du Pas-de-Loup et celles des moissonneurs, et les peurs, et les remises à huitaine, et les conciliabules, et les mots, tout pleins d'ignorance. « Monsieur le curé, je suis pour la religion, parce que ça fait aller le commerce. Qu'est-ce que deviendraient les bourses s'il n'y avait pas de dimanche ? Moi, je n'ai pas peur, je suis catholique, et quand je peux aller à la messe, j'y vais. Inscrivez donc le nom de mon père si c'est possible. Il aurait été content d'être là-dessus. Je donnerai pour lui. » Et tous ceux qui m'ont refusé, continuait l'abbé, ont tenu presque tous à s'expliquer. Ils se sont excusés. L'un d'eux avait un frère éclusier, et s'il avait donné pour l'église, il aurait craint pour son frère. Un autre m'a dit « Je suis fonctionnaire, et ses fonctions consistaient à nourrir un pupille de l'assistance publique. C'est à peine si j'ai rencontré ce que je redoutais si fort. Oh, monsieur Michel, voilà leur réponse. Elles sont pauvres comme eux. Elles ne savent pas, elles craignent, elles tremblent. Mais tous ces indifférents, mis en demeure d'apostasier, ont refusé. Comme je vais les aimer mieux encore. Jusqu'à présent, de quoi vivaient-ils ? Sur quel capital de grâce ? Sur leur baptême et sur l'Ave Maria de leurs aïeux. Mais voyez, ils viennent de faire acte de foi personnel. Et moi, je vais tant me dévouer, tant inventer et tant prier qu'ils reviendront tout à fait. Vive Fontenaye, monsieur Michel. Vive Fontenaye, je suis très heureux comme vous, monsieur le curé, et d'une joie qui nous dépasse tous les deux. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas paru à l'église depuis ce matin. Adieu. Merci. L'abbé Roubio s'éloigna, remonta vers le bourg. L'ombre commençait à venir. Il sentit passer autour de lui les bouffées de vent chaud que la nuit traînait sur la campagne, chacune ayant sa musique, son parfum, ses paroles. Vent de luzerne desséchée, vent des chaumes, vent des prairies, vent des forêts et des étangs de veaux. L'abbé murmurait « Je serai une âme comme vous, les enveloppant, les calmant, les pénétrant de la vie invisible. J'irai à eux, à tous. Je serai prêtre à toute heure. À toute heure. Alléluia !» Sur la route, une ombre le salua. « Bonsoir, Grolier, où vas-tu ? » « Cherchez ma nuit. Veux-tu coucher chez moi ?» L'errant, que la carnassière pleine, recouverte par un manteau, arrondissée par en bas comme une tente, leva sa barbe en broussaille et ses yeux ricanèrent. « Ha ha ! Que dirait Philomène ? Le Grolier à la cure, dans un lit ? Ha 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 ! Toute la paroisse en rirait demain ! Ha 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 ! Merci, monsieur le curé. J'ai une commission à faire, moi aussi. » L'ombre l'eut bientôt englouti, avec les haies, les bordures d'herbe et même la chaussée terreuse de la route. Par l'allée forestière, il descendit vers le Pas du Loup. La forêt le reçut, le cacha et lui donna plus d'allure, comme aux bêtes qui se retrouvent chez elles sous les branches. Trottinant sans être vu, il se glissa jusqu'à la porte de Gilbert Cloquet. La porte était barrée à l'intérieur. Le hameau s'endormait. On n'entendait qu'un cri d'enfant que la mère apaisait en fredonnant. Le Grolier fit le tour de la maison et poussa la clé du jardin qui était derrière. Là, il devina, assis sur le tronc d'arbre qui pourrissait le long du mur, un homme qui songeait ou qui dormait, la tête dans les mains. Il siffla comme un oiseau qui s'éveille. L'ombre se dressa debout. « Est-ce que tu veux un coup de fourche, cheminot ?» La voix basse de Gilbert sonna dans le jardin, mais n'arrêta pas le Grolier, qui, d'un geste d'épaule, se débarrassa de son manteau, puis enleva le carnier rebondi qu'il portait en bandoulière. « T'effraie pas, mon vieux, c'est moi, le Grolier, qui viens te faire une visite. »« J'aimerais mieux une autre fois, Grolier. Cette nuit, j'ai de la peine. »
Justement, j'ai à te parler de ta peine. »
Le Grolier, pendant que Gilbert se rasseyait sur le tronc d'arbre, demeurait debout, appuyé sur sa canne.
« Ta fille, chez qui, demain, le notaire fera la vente. »«
Je n'y serai pas. Ne me parle pas d'elle, et si elle t'a donné une commission pour moi, ne la fais pas.
Laisse-moi. J'en ai de la peine. Ma fille, les camarades, le travail, ma femme qui est morte, tout. »
Oui, n'est-ce pas? C'est comme la mère que j'ai vue quand j'étais petit. Ils disent que plus on enfonce et plus elle est salée. Je ne peux pas te guérir, Cloquet, mais je te sais un homme juste.
Eh bien, à quoi ça m'avance?
À ne pas laisser ceux qui dépendent de toi prendre le bien d'autrui.
Gilbert se leva et saisit le bras du mendiant.
Ne dis pas ça! J'y perds tout mon argent dans la vente de ma fille. J'y perds ma retraite et mon repos. Que veux-tu que je donne de plus?
Lâche-moi et écoute. Quand l'huissier est venu à l'épine, le dernier de mai, tu crois peut-être qu'il a noté tout le bétail de l'Heureux?
Sans doute.
Tu te trompes.
À savoir?
Il n'a pas pu mettre sur son papier ce qu'il y avait dans la forêt.
Caché?
Parbleu, tout le monde l'a su dans Fontenay, sauf toi.
Voleur, mes enfants voleurs.
Tu plaisantes, Grolier, mais je vais t'en faire passer l'envie.
Je plaisante si peu que tu n'as qu'à aller cette nuit à la ferme de l'Épine. Ouvre la porte de l'étable. Tu verras qu'il y a 3 vaches de moins. Dans la bergerie, 4 brebis de moins. Dans l'écurie, 1 jument de moins, la plus belle.
Et où sont-elles les bêtes?
Le Grolier tournait la tête à droite et à gauche pour signifier qu'elles étaient ici et là dans la campagne.
Elles attendent à l'abri que la vente soit finie. Alors on les vendra à des amis.
Mais les créanciers n'en sauront rien, ni le notaire, ni l'huissier.
Et ton gendre aura encore de l'argent pour s'amuser, Gilbert.
Le journalier secoua plus rudement le bras du mendiant.
Ne me trompe pas, Grolier, ou bien je te retrouverai dans le bois et je te réglerai ton compte. Ma fille, voleuse, le bétail caché. Dis les noms des complices qui ont caché les bêtes, Grolier, dis et je pars.
Le Grolier, sans s'émouvoir, doucement, car la nuit était douce et il ne fallait pas être entendu par les voisins, dit les noms des fermes ou des gens. Puis il rejeta son manteau sur son dos et pendit la carnassière à son épaule.
J'ai mes bauges dans la forêt. Adieu, Gilbert. C'est un service que je t'ai rendu parce que tu es un honnête homme. Quand je n'aurai plus de pain, tu m'en donneras?
Gilbert était déjà rentré dans la maison. Il prit, à tâtons, une trique de cormier et donna un tour de clé à l'armoire où était le butin. Quand il sortit, le jardin était désert. Une brume chaude enveloppait les légumes, les poiriers, les ruches, la haie, la forêt tout autour. La lune devait se lever, car on entendait très loin hurler un chien perdu. Comme un homme qui n'a pas toute sa raison, l'homme se mit à galoper, sautant par-dessus les échaliers, marchant dans les mottes des prés et faisant le moulinet avec sa branche de cormier sec. Il courait du côté de l'épine. Bientôt, la maison se leva, à mi-côte, dans le brouillard déjà blanchi par la lune invisible, la maison où serait faite la vente demain. Gilbert écouta. L'homme et la femme devaient dormir. Il s'approcha encore et appliqua l'oreille contre les volets bas. Puis, marchant avec précaution, il alla ouvrir la porte de l'étable, celle de l'écurie, celle de la bergerie, celle du toit à port. Alors, sûr de la vérité, il cria dans la nuit, de toutes ses forces, tourné vers la maison,
« Voleur! Voleur !»
Et il repartit au galop, montant les terres qui font le dos d'âne au-dessus de l'épine.